France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire du journal Combat. Né dans la Résistance en 1941, ce bulletin au nom batailleur s'est donné pour mission de contrer la propagande vichyste et de convaincre les Françaises et les Français que, malgré l'occupation allemande, tout n'est pas perdu. Non, il faut continuer à se battre. Et c'est ce que font inlassablement les résistants de Combat, prenant les plus grands risques pour faire exister ces pages imprimées porteuses d'espoir. Grâce à leurs efforts et à leurs sacrifices, Combat devient l'un des journaux clandestins les plus diffusés pendant la Seconde Guerre mondiale. À la Libération, il entame une première mue et devient un quotidien, légal cette fois, avec Albert Camus en éditorialiste star. Le journal se veut un lieu de débat où se pense la reconstruction du pays. Mais la presse est une aventure difficile, et au fil des années, le bien des péripéties, Combat va perdre peu à peu ses lecteurs, jusqu'à mettre la clé sous la porte en 1974. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Jean Lebrun, que vous connaissez bien. Il a présenté La Marche de l'Histoire sur France Inter pendant 12 ans, et surtout, il est un ancien journaliste du journal Combat, invité Escalité. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Marie Kirchen, rédaction chez Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Paris, 19 août 1944. L'heure est à l'insurrection dans les rues de la capitale française, occupée par les Allemands depuis 4 ans. Les Alliés ont débarqué 2 mois plus tôt en Normandie, on les sait désormais tout proche. Alors il est temps pour les Parisiens de se libérer. Les forces françaises de l'intérieur passent à l'offensive. On se bat au détour d'une rue. Là-bas, on crie « Vive la France !» à travers une fenêtre. Et bientôt, le drapeau bleu-blanc-rouge flotte à nouveau sur la préfecture de police. À quelques minutes à pied de là, 6 personnes se sont donné rendez-vous au 100 rue Réaumur. 5 hommes et une femme. Ils forment ce qu'il reste de la rédaction du journal Combat. Parmi eux, Albert Camus, déjà auteur de L'Étranger. L'immeuble devant lequel se trouve la petite troupe héberge depuis 1940 la rédaction du Pariser Zeitung, le journal d'occupation allemand. Mais aujourd'hui, les locaux sont désertés. Au revoir la presse allemande des collabos. Avec l'insurrection de Paris, c'est la presse résistante qui prend la place. Quelques semaines plus tôt, à Alger, le gouvernement provisoire a déjà tout prévu. À la Libération, les journaux ayant collaboré avec les nazis seront suspendus et leurs bureaux attribués aux gazettes de la Résistance. Le sang ruré au mur vient donc d'être confié à 3 rédactions jusqu'ici illégales, celle de Franc-Tireur, de Défense de la France et donc celle de Combat. Pendant que Paris est en pleine bataille, le groupe des 6 s'engouffre dans l'escalier du bâtiment et gravit 4 à 4 les marches jusqu'au 3e étage pour découvrir leur nouveau lieu de travail. Bon, les bureaux d'arrivée au mur ne sont pas très propres, mais il y a des crayons et du papier, une matière première précieuse en ces temps de rationnement. On se met donc au travail pour produire le numéro 59, le tout premier qui pourra paraître en toute légalité. Le 21 août, c'est le grand jour. On enclenche les rotatives pour imprimer 180 000 exemplaires de cette édition très spéciale. L'émotion est immense parmi les membres de la petite équipe. Alors, dès qu'on a en main les pages imprimées, on ouvre grand les fenêtres pour en lancer dans la rue. Elles virevoltent les pages quelques secondes dans les airs avant de retomber et de recouvrir les pavés parisiens. Le lendemain, on peut entendre ceci sur les ondes de la radio désormais aux mains de la Résistance.
Ici, radiodiffusion de la nation française.
Mardi 22 août, 10 journaux sortent des imprimeries. Malgré les fusillades, malgré les Allemands, les Parisiens s'arrachent ces feuilles qui leur apportent des informations enfin libres. Voici Albert Camus, déjà connu comme écrivain, qu'on découvre rédacteur en chef de Combat. Il vient lire son premier éditorial.
Il a fallu 5 années de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance, publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Cela ne peut s'écrire sans émotion.
C'est dans l'honneur de maintenir droit de la collaboration.
Comme le dit Camus, Combat est donc un journal né de l'esprit de résistance. Pour comprendre son histoire, il faut remonter à l'été 1940. Pétain vient de signer l'armistice avec l'Allemagne, à Rotonde, pactisant ainsi avec l'ennemi au lieu de poursuivre la lutte. Henri Freinet est alors capitaine dans l'armée française. Fait prisonnier par les Allemands, il arrive à s'échapper pour regagner la zone dite libre. À Vichy, il retrouve son ami et amante, Bertie Albrecht. Il est issu d'une famille de droite catholique, elle est une militante de gauche féministe, de 12 ans son aînée. Depuis leur rencontre en 1934, c'est elle qui l'a sensibilisé au danger du national-socialisme allemand. À l'été 40, ils sont tous les deux abasourdis par la situation de la France. Mais pas totalement désespérés, puisque dans un premier geste de résistance, ils lancent une organisation clandestine, le Mouvement de Libération Nationale. À la fin de l'année 40, Bertie Albrecht a une idée. Il faut créer un bulletin d'information. Bien des années plus tard, Henri Freinet explique cette démarche.
À l'époque, partout, on nous mentait. Vichy mentait ou se taisait. Il fallait donc trouver le moyen d'essayer de dire la vérité et de la répandre. C'est l'un des besoins les plus pressants que nous avons ressentis, notamment en zone libre. Malheureusement, nous n'avions aucun moyen. Cependant, on a commencé, parce qu'il faut toujours commencer par un bout. Et ce bout, ça a été tout simplement, à Vichy, au début de l'année 41, une machine à écrire. À distance, ça paraît risible. C'est comme ça que, très modestement, nous avons commencé.
Initialement, le bulletin est reproduit en seulement 18 exemplaires tapés à la machine. Il s'agit d'une feuille simple qui n'a même pas de nom. On compile alors les informations, généralement issues de l'écoute de la BBC et de la radio de Genève, pour contrer la propagande de Vichy. Mais bientôt, le réseau lancé par le couple Freinet Albrecht, désormais basé à Lyon, prend de l'ampleur. En mai 41, le bulletin devient un journal en bonne et due forme, intitulé « Les petites ailes de France », avec en exergue cette phrase de circonstance signée Napoléon. « Vivre dans la défaite, c'est mourir tous les jours ». Désormais, fini la machine à écrire. L'équipe utilise une machine à René Hautet. À l'été 41, Bertie Albrecht trouve même un imprimeur qui accepte de les aider. Les petites ailes de France sont désormais tirées à 3000, puis 6000 exemplaires, distribués des deux côtés de la ligne de démarcation. En août 41, les petites ailes de France changent de nom et deviennent Résistance en zone nord et Vérité en zone sud. Le mouvement de libération nationale, lui, continue de s'étoffer. Mais il n'est pas le seul dans la région. Et bientôt, Freinet se demande s'il ne faudrait pas fusionner les réseaux de résistance pour plus d'efficacité, comme le propose dans cette archive Pierre-Henri Tedjen de l'organisation Liberté.
La multiplication des mouvements de résistance, ils étaient au moins trois mouvements déjà importants en zone libre, Liberté, le mouvement de libération nationale de Freinet, et puis libération d'acier de la Vigerie. Déjà trois mouvements de résistance pour la zone sud, alors qu'ils poursuivaient finalement les mêmes objectifs, au moins dans l'immédiat. C'était beaucoup. Mais aussi se constituait un peu au hasard de petits mouvements composés de gens admirables. Mais tout cela faisait des doubles emplois, des concurrences et une perte finale de moyens et de possibilités d'action qui était très regrettable. Freinet, le premier, je crois, mais nous le souhaitions aussi, Freinet a souhaité fusionner ses mouvements.
En novembre 1941, l'unification entre le mouvement de libération nationale et le groupe Liberté est actée. Il est aussi décidé qu'il n'y aura plus qu'un seul journal, celui de l'équipe de Freinet. Son nom, Combat. Ce titre fonctionne tellement bien qu'il devient bientôt non seulement le nom du journal, mais également celui du groupe tout entier. Le premier numéro paraît en décembre. Une phrase des Clemenceau, cette fois, est mise en avant à côté du titre et elle dit « Dans la guerre, comme dans la paix, le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais ». En une seule année, Combat est donc passé d'un petit bulletin laborieusement tapé à la machine à un vrai journal de 4 pages. C'est généralement Henri Frenet qui écrit l'éditorial. Au départ, l'ancien militaire se montre assez clément avec Pétain, qui reste le héros de Verdun, une idée bien ancrée à l'époque. Non, c'est à l'entourage du maréchal qu'il réserve ses flèches. Mais au cours de l'année 42, Frenet comprend enfin qu'il faut s'opposer plus clairement au régime de Vichy et se rallier au général de Gaulle. À partir d'octobre 42, une croix de Lorraine, le fameux symbole gaulliste, apparaît ainsi au milieu du titre combat, niché au cœur de la lettre C. Le journal résistant est désormais tiré à plus de 50 000 exemplaires dans la région lyonnaise. Il est imprimé par Joseph Martinet, installé à Villeurbanne. C'est lui, déjà, qui a imprimé les petites ailes de France. Écoutez son témoignage en 1973.
Monsieur Martinet, cette machine sur laquelle vous travaillez, oui. C'est la machine sur laquelle a été imprimé le premier numéro de combat clandestin.
Le premier numéro de combat clandestin qui avait été précédé par Petites Ailes et Vérité.
Et alors racontez-moi, dès février 41, comment devient-on un imprimeur de la Résistance ?
Par tempérament, évidemment. Évidemment que je n'étais pas pour ni pour les Allemands, ni pour Pétain, même étant d'ailleurs ancien du Parti Socialiste.
Et alors, comment vous avez été contacté ?
Ben, j'ai été contacté par Mme Berthiel-Breitsch, par l'entremise de mon camarade Dargaud, qui est d'ailleurs mort en déportation.
Et quel était votre nom de résistant, M. Martinet ?
Oh ben, ils ont cherché longtemps avant de m'appeler Dupont.
Joseph Martinet, ou Dupont donc, est bientôt aidé par d'autres imprimeurs résistants à Saint-Étienne, à Toulouse, à Perpignan ou encore à Avignon. Mais la multiplication des imprimeurs implique aussi de devoir transporter d'un lieu à un autre les plombs qui permettent d'imprimer le journal. Ce qui est risqué, bien sûr. Mais en 1943, le réseau arrive à dénicher un local assez grand, rue Viala, à Lyon, où il est possible d'installer une nouvelle machine, plus efficace, ainsi qu'un service de photogravure. C'est parfait. On peut ainsi centraliser l'impression et augmenter encore le tirage. Mais l'engin fait un boucan d'enfer, ce qui risque d'éveiller les soupçons des voisins. Alors on trouve la parade en l'entourant de planches de bois et de sacs de sable pour étouffer le bruit. Une fois le journal imprimé, encore faut-il le faire voyager pour qu'il atteigne ses lecteurs. Là encore, l'exercice est très périlleux. N'oublions jamais qu'en cas de malheur, c'est la torture ou la mort, et plus souvent les deux. Bon, on pourrait bien l'acheminer par des résistants en train avec des valises pleines à craquer d'exemplaires. Mais en cas de contrôle... Alors, l'équipe lyonnaise imagine une combine. On prend bien un billet de train et on enregistre les valises comme étant les bagages d'un voyageur. Sauf que personne ne monte dans le train. À la place, on a pris soin, en amont, d'envoyer le ticket d'enregistrement du bagage à un résistant local qui peut alors venir retirer la valise une fois celle-ci arrivée à destination. Ensuite, charge à lui de faire circuler les exemplaires dans son département. Alors que les systèmes d'impression et de distribution se perfectionnent, les choses bougent également du côté de la rédaction. Au printemps 1943, en effet, Henri Frenet part pour Londres. Et c'est son camarade Claude Bourdet qui prend la suite. Le réseau Combat fait désormais partie des mouvements unis de la Résistance, dont les organes de direction déménagent à Paris. Dans le même mouvement, la rédaction du journal s'installe aussi dans la capitale, tandis que l'imprimerie, elle, reste à Lyon, ce qui ne facilite pas toujours le travail, évidemment. Maintenant, reste à trouver un journaliste professionnel pour superviser tout cela. Ce sera Pascal Pia, un Parisien passé par le Progrès de Lyon et par l'Alger républicain dont il a été le rédacteur en chef. Un soir de novembre 1943, il arrive à une réunion accompagné d'un jeune homme. Un jeune homme à l'allure plutôt frêle, comme le raconte dans cette archive Jacqueline Bernard, la secrétaire de rédaction du journal.
Pascal Pia est arrivé avec un garçon jeune qui nous a présenté en disant « Voilà quelqu'un qui va pouvoir nous donner un coup de main. » Alors au bout de quelques temps, comme moi j'étais un peu responsable de regrouper tout ça, j'ai dit « Bon, comment est-ce qu'on vous appelle ?» Et il a répondu « Beauchard », après avoir un peu cherché. Alors à ce moment-là, c'était un garçon maigre, assez pâle, qui avait mauvaise mine. Il avait l'air sous-alimenté comme tout le monde. Et il était habillé d'une façon minable comme tout le monde, mais enfin assez nettement minable, avec un vieil imperméable. Alors ce jour-là, on lui a dit, bon, ben, qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et d'un air comme ça, avec un tout probablement une petite lueur dans l'œil, mais je ne l'ai pas vu, il nous a dit que ben, pour la mise en page, il pourrait peut-être, il connaissait un peu, qu'il pourrait donc peut-être nous aider, que pour la rédaction, il avait aussi des idées, qu'en tout cas, il faisait n'importe quoi, et puis s'il s'était porté des paquets, il ne demandait pas mieux.
Eh bien, ce jeune homme, c'est Albert Camus, qui connaît bien l'univers de la presse. Et pour cause, il a rencontré Pascal Piat 5 ans plus tôt, quand celui-ci l'a engagé comme journaliste à l'Alger Républicain où il a fait ses armes. Pacifiste convaincu, Camus a mis du temps avant de s'engager dans la résistance. Mais désormais, il en est certain, c'est son devoir. Et il va mettre tout son cœur à l'ouvrage pour aider le combat à se développer. Jusqu'ici, le journal était hebdomadaire. À partir de 1944, il devient mensuel. Il est alors tiré à 100 000, voire 200 000 exemplaires. Des chiffres considérables pour un objet fabriqué dans l'ombre, la peur au ventre. Car la répression rôde toujours, et est toujours plus féroce. Commence 17 juin 1944, un jour terrible pour combat. 4 membres de l'équipe de l'imprimerie lyonnaise ont été repérés, et la Gestapo qui se prépare à donner l'assaut, et là, appuyé par la milice. Une première salve tue sur le coup le photograveur. L'un de ses camarades, André Bollier, le jeune ingénieur qui a mis en place l'imprimerie de combat, tente de riposter, mais il n'a qu'une arme de poing. Avec Lucienne, une autre résistante, il tente de s'enfuir par la cour. Les deux arrivent à enjamber une clôture, mais alors qu'ils atteignent enfin une rue parallèle, ils sont rattrapés par une nouvelle rafale. André Bollier est blessé. Quelques semaines plus tôt, il a déjà été arrêté et torturé par la Gestapo. Alors il est prêt à tout pour échapper à cet enfer. Il prend donc son arme, la retourne contre lui et se tire une balle dans le cœur. Lucienne, elle, n'a pas le temps de réagir. Alors qu'elle est embarquée par la police allemande, elle aperçoit dans la cour le cadavre de son camarade.
Les mois passent. Les années. Tu appartiens au lendemain. Moi aussi. Tu apparaîtiens au lendemain, ce lendemain qui va venir, quand la tourmente va finir, quand je pourrai te revenir. Tu apparaîtiens au lendemain, ce lendemain qu'à chaque instant j'imagine et j'attends, ce lendemain dans l'avenir. Et de savoir que tu es là, que tu m'attends, que tu m'espères, chasse mon cafard, guide mes pas dans un chemin plein de lumière. Te souviens-tu comment partant, je t'avais dit pas pour longtemps, mais le temps fuit sans qu'on s'en doute. Voilà 3 ans que sur la route, je t'ai laissé me voir partir. Tu appartiens au lendemain, ce lendemain qui doit venir, quand la tourmente va finir, quand je pourrai te revenir. Tu appartiens au lendemain, ce lendemain qu'à chaque instant j'imagine et j'attends, ce lendemain dans l'avenir.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le journal Combat.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Quand arrive la libération de Paris en août 44, Combat peut enfin tourner la page de la clandestinité et commencer sa deuxième vie, celle d'un quotidien publié tous les matins tiré à 180 000 exemplaires sur deux pages. Pascal Piat est nommé directeur, Camus rédacteur en chef. Les deux amis sont très conscients que le moment est historique et qu'il faut être à la hauteur de l'enjeu. La nouvelle devise, affichée fièrement juste sous le titre du journal, annonce l'objectif de la résistance à la révolution. Car pour ces journalistes, la reconstruction de la France après ces années de guerre doit générer de profonds changements. En se fondant non pas sur les partis politiques de la Troisième République, discrédités, mais sur les mouvements de résistance. En conséquence, le quotidien ne doit surtout pas être inféodé à tel ou tel parti. Camus le résume ainsi dans l'un de ses éditos. « Nous sommes décidés à supprimer la politique pour la remplacer par la morale. » Tout un programme. Alors on recrute de nouvelles plumes, souvent jeunes. Mais le journal ouvre aussi ses pages aux grands intellectuels, comme le décrit l'un de ses salariés, Georges Altschuler, dans cet archive de 1961.
Tout de suite après la libération de Paris, et je dirais même pendant la libération de Paris, on a très vite appris que Combat était le rassemblement d'une équipe, qu'il se trouvait là une équipe de gens extraordinaires. Et tous ces gens voyaient, le soir, lorsque nous avions terminé notre journal, voyaient arriver dans la salle de rédaction de Combat des gens connus. Il y avait Jean-Paul Sartre, il y avait Simone de Beauvoir, il y avait André Malraux qui arrivait en uniforme de commandant. Il y avait beaucoup d'autres gens, il y avait Jacques Prévert par exemple. Et alors là, commençaient des débats passionnés qui duraient des heures et des heures, et des débats pendant lesquels tous les problèmes étaient débattus, et on faisait même la critique du journal. Et au cours de ces débats, Albert Camus jouait un très grand rôle.
Combat est donc un journal où l'on pense. Alors que l'hiver 44 arrive, Camus s'engage ainsi dans un affrontement polémique avec une autre plume célèbre, François Mauriac, du Figaro. À coups d'édito ciselé, les deux intellectuels s'opposent sur la question de l'épuration. Mauriac plaide pour une clémence toute catholique, tandis que Camus souhaite que justice soit rendue contre tous ceux qui ont collaboré. Mais très vite, l'auteur de L'étranger est déçu par la tournure que prend la vie politique française. Épuisé par son activité à Combat, il souhaite terminer son nouveau roman, La Peste, et demande à se mettre en retrait du journal. Une décision qui jette un froid dans sa relation avec Pascal Piat, glaciale même. Alors, une certaine morosité gagne la rue Réaumur, notamment parce que, un an après sa renaissance légale, le journal ne gagne plus de nouveaux lecteurs et peine à séduire au-delà de la région parisienne. Il faut dire que la rédaction abrite diverses tendances politiques. Certains journalistes sont imprégnés d'un socialisme humaniste, d'autres se rapprochent de plus en plus du gaullisme. Le journal a du mal à garder une cohérence éditoriale, ce qui finit par déboussoler ses lecteurs, qui désertent. Un problème que pointe Albert Camus, justement, dans une lettre écrite à Pascal Piat en novembre 1945.
« J'ai lu Combat avec des sentiments mêlés, mais jamais avec celui de la satisfaction. » Et il me semble bien que le lecteur n'a pu voir dans vos positions successives que contradictions et incohérences. On ne peut pas, après avoir publié trois éditoriaux d'un antiparlementarisme acerbe et évident, demander gravement au lecteur de ne pas tomber dans l'antiparlementarisme. On ne peut pas, après trois commentaires d'un anticommunisme sans nuance, réclamer d'autre part le pouvoir pour les communistes, à moins de laisser prise aux pires interprétations. Je sais bien à quel repentir, fort honorable, obéissent ces variations. Mais le lecteur, lui, ne le sait pas. Et je crois pouvoir dire que, probablement, dans la crise actuelle, Combat n'a pas fait du bien au pays.
À la même période, un conflit éclate entre la rédaction de Combat et les anciens de la Résistance. Au sortir de la guerre, Henri Freinet ne réintègre pas l'équipe. Il continue son activité politique. Il est même nommé ministre des prisonniers et déportés. À plusieurs reprises, sa politique est vivement attaquée dans les colonnes de l'Humanité. Pour publier une réponse, Freinet se tourne alors tout naturellement vers ce qu'il estime être son journal. Mais la rédaction de Combat est catégorique, c'est non. On l'a dit, le journal n'est adossé à aucun parti. Donc, hors de question de publier les tribunes des hommes politiques et nulle exception n'est acceptée. Y compris pour le cofondateur du titre. Freinet est furieux. Avec l'appui de Claude Bourdet, il tente alors de reprendre la main sur le journal, sans succès. Malgré cette fidélité stricte à ses principes moraux, Combat va de plus en plus mal. Les ventes diminuent, les comptes sont dans le rouge. En mars 47, Camus revient brièvement prêter main forte. Pascal Piat, lui, n'a plus la force d'y croire et il démissionne. Le journal doit à tout prix trouver un moyen de renflouer les caisses. Des discussions avec des investisseurs sont engagées, mais Camus est méfiant. Il craint par-dessus tout une perte de liberté éditoriale. À tel point qu'en juin, après d'énièmes tractations infructueuses, l'écrivain et son équipe jettent l'éponge. Les six actionnaires du journal, dont Albert Camus et Pascal Piat, cèdent la quasi-totalité de leur part à Claude Bourdet, l'un des anciens du Combat clandestin. Voilà comment, plusieurs années plus tard, Camus justifiera son départ lors d'une conférence de presse.
J'ai quitté Combat, madame, parce que 3 ans après sa fondation, ce journal a eu besoin de capitaux. Et que dans l'histoire du journalisme dans le monde entier, les capitaux ne vont jamais sans servitude. J'ai donc refusé les servitudes en même temps que les capitaux, je me suis retiré du journalisme.
Commence alors la troisième vie de Combat. Pour se dépêtrer des soucis financiers, Claude Bourdet se décide à faire équipe avec un certain Henri Smadja, dont se méfie pourtant Camus. Mais cet homme d'affaires juif tunisien a plusieurs atouts. Déjà, il connaît le monde du journalisme, puisqu'il a créé le quotidien La Presse de Tunisie en 1934. Et puis, il accepte d'injecter de l'argent contre 50% des parts de la société. Bon, sur le papier, l'accord paraît acceptable. Smadja jure la main sur le cœur qu'il ne se mêlera pas de l'éditorial, tandis que Bourdet prend le poste du directeur politique. Au départ, et malgré un certain nombre d'articles qui ne sont pas vraiment de son goût, Henri Smadja tient sa promesse. Mais le duo qu'il forme avec Bourdet va faire long feu. Car bien vite, le premier est décidé à se débarrasser du second. En 1950, pour arriver à ses fins, Smadja convainc les anciens de Combat clandestins qui possèdent des parts de la société, et notamment Henri Freinet, de se retourner contre leur ancien camarade et de le mettre en minorité. Une fois Claude Bourdet évincé, Smadja se retourne alors contre ses alliés d'un temps qui l'ont aidé à écarter le directeur et se débrouille pour devenir l'unique gérant. Désormais, libre à lui d'intervenir comme il le souhaite dans la vie éditoriale du journal. Pendant toutes ces tractations, la situation de Combat continue de se détériorer. Smadja injecte de l'argent, certes, mais fabriquer un quotidien coûte cher, très cher. Et l'homme d'affaires n'a pas vraiment les moyens de ses ambitions. Alors il ruine sur tout ce qu'il peut. Il embauche de jeunes journalistes, qui ne coûtent pas très cher. Et dès que ceux-ci demandent à être payés décemment, eh bien ils sont remplacés par d'autres. Dans ces conditions, les ventes continuent de baisser. Et en 1951, le tirage n'est plus que de 70 000 exemplaires. En 1960, Smadja engage comme rédacteur en chef un jeune trentenaire, Philippe Tesson. Les deux hommes s'entendent plutôt bien. Ce qui n'empêche pas Smadja de rester très interventionniste sur les sujets qui lui tiennent à cœur, particulièrement sur le Maghreb. Car l'homme d'affaires tunisien est très attaché à la présence de la France en Afrique du Nord. Alors quand le général de Gaulle se dirige vers l'indépendance de l'Algérie, Combat vire anti-gaulliste et devient le repère des partisans de l'Algérie française. Au fil des ans, le journal continue ainsi de vivoter avec le minimum de moyens. Mais en mars 67, une nouvelle péripétie le met en danger. Henri Smadja est arrêté en Tunisie, soupçonné de trafic de devises.
Peu de précisions encore ce soir sur l'interpellation à Tunis de M. Henri Smadja, propriétaire du journal Combat à Paris. De Tunis, Pierre Serra.
Beaucoup de bruits, difficilement vérifiables, courent sous le manteau à Tunis à propos de cette affaire. De quoi s'agit-il? En tout état de cause, un trafic de devises, d'importation et d'exportation de dinars tunisiens, de fraude sur la législation tunisienne d'échange. L'affaire aurait débuté par la découverte par la douane à bord d'une voiture appartenant à deux contrebandiers étrangers bien connus, d'une importante somme en dinars dans une cachette minutieusement camouflée. À la suite de cette découverte, on arrête M. Elie Nakache, fondé de pouvoir d'Henri Smadja à Tunis. M. Nakache fait des aveux complets. Puis, on interpelle M. Smadja à sa descente d'avion. On l'interroge depuis 2 jours.
Et comme les ennuis ne viennent jamais seuls, le ministère des Finances français profite du séjour de Smadja en prison pour lancer une procédure de saisie du journal. Il se trouve que, depuis des années, le patron de presse ne paie pas ses cotisations sociales. Et la dette est colossale. Il doit à l'État plus de 80 millions de francs. C'est ainsi que, le 20 avril 1967, Combat cesse de paraître. Smadja est libéré au bout de 86 jours de prison et une très grosse amende. La Cour de cassation annulera finalement le jugement. Reste que cette épreuve est vécue comme une terrible humiliation pour l'homme d'affaires. Mais il en faut plus pour décourager Smadja, l'obstiné. Après avoir négocié un délai pour le remboursement de ses dettes auprès du ministère des Finances, il remet Combat dans les kiosques après une interruption d'un mois. Le quotidien n'est plus tiré qu'à 45 000 exemplaires. Année après année, le titre continue sa lente et inexorable dégringolade. En 1974, après 14 ans de bons et loyaux services, Philippe Tesson n'en peut plus de porter Combat à bout de bras, confectionné désormais de bout de ficelle. Dont acte, le 15 février, il présente sa démission, comme il l'explique sur France Inter.
Oui alors, Philippe Tesson, c'est un départ définitif ?
Définitif, oui. L'origine de mon départ tient à la dégradation de la fabrication et de la présentation de Combat. Je sais que ça n'atteint qu'indirectement le fond des choses, c'est-à-dire que Combat reste profondément ce qu'il est, c'est-à-dire un journal libre et un journal d'opinion, d'opinion au pluriel, et c'est son originalité. Mais je sais aussi qu'un journal, s'il peut être considéré comme autre chose qu'un produit industriel, est également un produit. Et c'est dans la mesure où Combat est de moins en moins un produit commercial, de moins en moins une marchandise vendable, c'est dans cette mesure-là que j'ai pris cette décision à contre-cœur, puisqu'il y a 14 ans que je fais Combat.
Si Combat est de moins en moins vendable, c'est que cela fait des années qu'il a besoin d'apports financiers, notamment pour moderniser le processus d'impression. Mais Papa Smadja, comme l'appellent certains de ses salariés, refuse catégoriquement la venue de tout autre investisseur. Il veut rester le seul maître à bord. Capitaine d'un bateau qui coule, il fonce droit vers l'iceberg. Et trois jours après la démission de Tesson, c'est l'intégralité de la rédaction qui tire sa révérence.
Crise à Combat, la rédaction du quotidien parisien a décidé à l'unanimité, de cesser sa collaboration au journal le 8 mars prochain, et cela au nom de la clause de conscience. Elle a annoncé cet après-midi, les journalistes estiment en effet que la dégradation accentuée de l'entreprise ne leur permet plus de travailler dans des conditions normales, une opinion partagée par le rédacteur en chef de Combat, Philippe Tesson, qui lui avait donné sa démission dès vendredi.
Si Tesson et son équipe claquent la porte, c'est qu'ils ont un autre projet en tête. Lancer un nouveau journal, le Quotidien de Paris, dont le premier numéro sortira deux mois plus tard. Mais pour ne pas laisser tomber Combat du jour au lendemain, la rédaction a tout de même accepté d'effectuer trois semaines de préavis avant de tourner définitivement les talons. Trois semaines pour former une nouvelle équipe, c'est un sacré défi. Mais cela n'a pas l'air d'inquiéter Henri Smadja, qui assure à qui veut l'entendre que Combat ne va pas cesser de paraître. Interrogé par les journalistes, il continue de faire bonne figure et dénoncer les grands principes d'indépendance.
Dans les formes actuelles de la société, je sais qu'il faut de l'argent pour lancer le journal. Pour moi, il y a un préalable, une condition essentielle. L'origine de l'argent. S'il est contraignant, dans aucun cas je ne l'emploierai. Je préfère rester dans une douce et dans une pénible en même temps asphyxie plutôt d'accepter une contrainte rédactionnelle ou morale.
Des hommes politiques vous en ont déjà fait des propositions, je crois, pour racheter au moins une partie du journal. Vous avez toujours refusé. Est-ce que vous pensez que vous pourrez
depuis
continuer ?
Depuis 25 ans que je m'occupe de Combat, les offres ont abondé. La situation actuelle prouve que je n'ai pas été sensible au charme des sirènes. Je crois que c'est pas mon âge qu'on changera.
Mais vous êtes sûr de trouver de l'argent ?
Pas besoin d'argent. S'il vient, tant mieux. S'il ne vient pas, nous continuerons.
Le jour suivant le départ de la rédaction démissionnaire, Combat est bien dans les kiosques grâce à une équipe entièrement renouvelée. Mais Smadja a beau tenter de faire bonne figure devant les caméras et les micros, la situation est dramatique. La sienne surtout, âgée de 77 ans, il est malade. Est totalement à court d'argent. Et puis l'un de ses frères vient de mourir. Le 14 juillet 1974, il se suicide. Le journal qu'il a dirigé pendant 27 ans lui survivra un mois et demi. le 30 août 1974, pour son tout dernier numéro, la rédaction choisit ce titre choc, « Silence en coule ». Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le journal Combat, dont nous parlons avec notre invité Jean Levrin. Bonjour Jean.
Bonjour Fabrice, moi je suis un des derniers survivants. J'étais un modeste pigiste des pages littéraires. J'ai été jusqu'au bout. Je faisais partie des jeunes dont Smadja disait « ils sont inconnus, on les exploite, il n'y a pas besoin de les payer ».
C'est formidable, vous répondez à une question que je ne vous ai pas posée. Ça tombe bien, c'est celle que je voulais vous poser. Bon, avant d'y travailler, vous avez été aussi lecteur du journal, dès l'âge de 15 ans, je crois.
Ouais.
Comment devient-on lecteur si jeune d'un journal comme celui-ci? Qu'est-ce qui vous a attiré?
Parce que personne ne le lisait autour de moi, certainement pas ma famille qui était démocrate chrétienne, et le journal penchait parfois pour l'extrême droite, certainement pas dans mon collège, à la faculté plus tard, personne non plus. Avant mai 68, ne lisait Combat, donc moi je lisais Combat parce que personne ne le lisait. Moi j'étais toujours partisan des réfractaires.
Bon.
Albert Camus l'avait été aussi partisan des réfractaires, des minoritaires. Et c'était le journal de tous les minoritaires. Et puis ce que j'aimais, c'était que c'était une confrontation d'idées. Il n'y avait pas d'argent à Combat. Il avait inventé le journalisme tel qu'on le pratique aujourd'hui dans beaucoup de médias. Pas de reportage, des opinions qui se contrebattent et s'opposent. Mmh. Alors moi, j'aimais bien ce fracas.
Ce pluralisme intérieur.
Mmh.
Alors, la réputation de Combat est grande, elle est prestigieuse, pourtant la fin n'est pas très glorieuse. Qu'est-ce qui fait que Combat est si prestigieux?
Alors, je vous raconterai quand même de hauts faits de l'époque finale. À l'époque où je lisais Combat, le nom de Camus n'avait pas bonne presse dans les milieux intellectuels.
D'abord,
dans les
qu'est-ce
milieux intellectuels de gauche, le philosophe des classes terminales.
Ouais.
Pas un vrai philosophe, le grand homme, c'était Jean-Paul Sartre. Enfin, c'est banal de le dire, mais c'est exact. Moi, ce qui m'avait attiré, c'était un homme dont vous avez parlé justement, mais sur lequel on pourrait dire davantage, Pascal Piat. Jeune lecteur à la Bibliothèque Nationale, je voyais un vieux monsieur qui venait tous les matins à 8h, il faisait le catalogue de l'enfer.
C'est quoi?
Des publications infernales, des publications interdites.
D'accord.
Et qui étaient consignées dans des placards à la Bibliothèque Nationale. Il faisait d'ailleurs l'inventaire de ce qu'il avait écrit lui-même, parce qu'avant la guerre, il avait inventé des inédits, par exemple un inédit de Baudelaire, un peu érotique, et il avait fabriqué des livres érotiques. C'était, Pascal Piat, un amateur de la clandestinité. Il vendait des croûtes, il vendait des inédits, il s'était fait un vrai bagne de la publication de faux, de livres un peu singuliers, et moi, il m'attirait, ce monsieur. Mmh. Et lisant davantage sur lui, notamment un superbe livre de Roger Grenier, je me suis aperçu que c'était une sorte de diamant noir. On entendait une chanson qui disait « J'appartiens au lendemain ». Il n'appartenait aucunement au lendemain, Pascal Piat, même quand il était grand, résistant, il ne croyait pas à l'avenir. Il pensait que tout se passerait très mal. Il pensait qu'on pouvait mourir pour des causes auxquelles on ne croyait pas. Il s'est engagé profondément, mais persuadé que ça échouerait. Alors, il disait, nous allons faire un journal raisonnable, parce qu'on triait les faits, on les vérifiait, on multipliait les opinions. Espace public, espace démocratique, nous allons faire un journal raisonnable, et comme le monde est absurde, eh bien, vous verrez, il va échouer. Et au fond, il y croyait à l'échec. Et il passait son temps au journal, beaucoup plus que Camus, mais vérifiant tout, ligne à ligne. Il était capable d'aller corriger les petites annonces pendant qu'un ministre venait visiter le journal. Le ministre ne l'intéressait pas, l'exactitude de tout le passionnait. Il ne se souciait pas de l'assise financière, il se souciait de la qualité intellectuelle et de la vérité. C'était une sorte de diamant noir, vous voyez. Il était dans le pessimisme le plus absolu et néanmoins, il brillait.
La réputation de Combat prestigieuse, est-ce qu'elle prend racine avec mai 68?
Mai 68, c'est un rebond. En 1967, donc le journal connaît les aventures que vous avez dites. Le journal qui était un journal grand format, intitulé Le Journal de Paris, devient un journal tabloïde quand il reparaît. Et après, c'est la guerre des six jours. Mmh. Moi, j'étais en terminale, j'avais été privé pendant un mois de Combat, et je passais le bac et je lisais avec passion Combat, qui était très pro-israélien, ce qui le portait aussi, puisque l'opinion on s'en souvient peut-être, était massivement favorable à Israël en 1967. Et puis alors, Combat avait suivi de près l'affaire de la Cinémathèque, quand Langlois avait été renvoyé par Malraux et disait que c'était quelque chose d'équivalent au mouvement des étudiants américains à Berkeley. Et le mouvement étudiant s'est déclenché. Philippe Tesson, qui était un jeune homme, 40 ans, qui se trouvait dans une grande vigueur, c'était quelqu'un qui pensait que la biologie commandait la politique. Quand on était jeune, il fallait être révolté, il fallait faire sauter le couvercle de la marmite. Il était à Nanterre le 22 mars. Et après, il revenait à la rédaction pendant les émeutes du Quartier Latin pour dire « faut changer le titre, vous avez mis émeute au Quartier Latin, mettez l'infamie ». Philippe Tesson, qu'on a vu après devenir un homme de droite, et qu'il était aussi dans sa jeunesse, a accompagné le mouvement de mai 68. Alors, Smadja avait fait imprimer Combat depuis 1966 dans un château à proximité de Paris qui lui permettait d'échapper au syndicat du livre, qu'il détestait. Donc Combat pouvait paraître... Ouais. Et pouvait être distribué, à condition que le syndicat du livre ne vienne pas assiéger le château en ruine de Smadja à Médan, et à condition que les kiosques ne soient pas menacés par les grévistes. Et moi, j'ai distribué Combat à la criée, et dans Combat paraissait Le Canard Enchaîné, plus d'une fois, et puis un journal gauchiste qui s'appelait Action. Il y avait tout ça dans Combat, ça a été à un moment le journal du Quartier Latin.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Jean Lebrun, grâce à vos confidences, on sait ce que vous faisiez en 67 et en 68. Vous étiez un ado grand déjà, puis une fois adulte et journaliste. Vous atterrissez à Combat. Alors, vous y faites quoi ?
Je participe aux pages littéraires grâce à un ami, Jean-Clément Texier, qui est devenu un grand banquier des médias, et à Pierre Kyria. Donc je fais des comptes rendus de livres, des interviews. Enfin, il y avait des pigistes prestigieux. Il y avait Elisabeth Bazinter qui intervenait régulièrement dans les pages littéraires de Combat. Elles avaient été plus importantes au temps de Camus et jusqu'à la fin des années 40 avec Maurice Naldo, qui en était le dirigeant et qui inventait beaucoup d'auteurs. Mon grand souvenir, j'étais très fier de participer à Combat, pour moi c'était la conclusion d'une histoire d'amour. C'est comme la première fois, quoi. C'est ce que j'aimais quand j'étais ado, c'est ce que, jeune adulte, j'ai pu faire un peu par miracle. La dernière fois que je suis intervenu, c'était dans l'avant-dernier numéro pour faire une histoire de la pauvreté. Ça tombait bien. Lamennais, un grand philosophe du 19e...
C'était une mise à l'abîme, par rapport à Combat.
Lamennais avait fondé, en 1848, un journal qu'il avait dû interrompre. « Silence aux pauvres ». Je ne sais pas si c'est le titre que j'avais choisi. J'aurais dû le choisir, ça aurait été prémonitoire, puisque le lendemain, c'était « Silence, on coule ». Et le journal ne s'était pas aussi bien vendu que ce dernier jour, depuis des lustres, alors que toutes les pages étaient blanches.
Et alors, comment était l'ambiance ? Comment vous l'avez ressenti ? Parce que c'est une ambiance
un peu
mortifère.
Mais l'histoire de Combat, c'est l'histoire du mal logement. Donc, ils ont été sans rue et au mur, vous le disiez, à côté de Lazareff, Camus et Pia détestaient Lazareff. Après, Smadja les a installés rue Montmartre, c'était déjà moins bien, moins prestigieux. Après, ça a été 18 rue du Croissant, puis alors le dernier siège était extraordinaire. Rue Jouvenet, dans le 16e arrondissement, donc hors du quartier de la Presse, dans un immeuble qui n'était pas fini, parce que Smadja avait eu des responsabilités d'entrepreneur en travaux publics, et il ne savait pas que, néanmoins, que dans un immeuble, il devait y avoir un escalier, par exemple. Donc, il n'avait pas eu les moyens de faire l'escalier, donc on grimpait sur des parpaings. D'ailleurs, toute la façade était en parpaing non crépi, rue Jouvenet, en plein 16e arrondissement. Et puis l'immeuble était en forme de triangle, et on se demandait, au bout de chaque étage, une fois qu'on y avait accédé avec difficulté, comment la dernière pièce, la pièce finale en triangle, pouvait contenir quelqu'un. C'était quand même assez extraordinaire.
C'était un combat. Pour y arriver. Alors, à quoi ressemblait la rédaction menée par Philippe Tesson ?
Ah, Philippe Tesson, c'était quand même un type extraordinaire, parce que quand il a rassemblé, pour ses 80 ans, il est mort à plus de 90 ans, dans le respect général, les jeunes qu'il avait installés, parce qu'ils avaient un brin de plume, parce qu'ils avaient du talent, qu'ils avaient de la flamme, qu'ils avaient du panache, il leur a dit ceci, qui me paraît, moi, une merveilleuse leçon, que j'ai essayé d'appliquer dans mes groupes de journalistes. « Je ne vous ai pas formé, je vous ai formé à devenir vous-même ». Alors, il y avait des vieux schnocks, René Daberna, dont on disait qu'il écrivait avec des gants. Il y avait un ancien président du Conseil économique et social. Il y avait quelques rescapés de l'extrême droite de l'époque de l'Algérie française. Il y avait un gentilhomme légitimiste qui était partisan des colonels grecs, Jacques de Ricomont. Et puis, il y avait des chevaliers de la gauche, comme Maurice Clavel, qui était tout le temps en ébullition, qui fulminait en bas du journal en une, qui expliquait que tout allait sauter, que Dieu allait réapparaître par les failles de l'avenir. Et puis à côté, il pouvait y avoir Tixier-Vignancourt qui faisait l'extrême droite, qui faisait une tribune. Et puis j'ose pas le dire parce que les flammes de l'enfer l'ont dévoré, mais enfin il y avait aussi Gabriel Matzneff, mais qui à l'époque paraissait un viveur et qui était en même temps le responsable des émissions orthodoxes à la télévision, donc on le prenait très au sérieux. Il prêchait l'ascétisme.
C'était très piquant tout ça. Ouais. Alors que vous étiez payé au lance-pierre ?
J'étais payé une fois, pour une page entière, j'étais content, j'ai reçu un chèque, il n'était pas provisionné.
Alors à votre avis, qu'est-ce qui a causé la chute de ce journal ? Le manque de moyens ? J'ai l'impression que le manque de moyens est un élément important.
Oui, parce que la nièce de Smadja disait il s'est acheté une Rolls, et c'est un garagiste spécialiste dans les 4 chevaux, comme vous l'avez dit, il n'avait pas les moyens. Mm. Non, ce qui a quand même tué Combat, c'était la très grande diversité, l'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'il attendait Combat l'intelligence des lecteurs. Combat mène chaque jour le combat de l'intelligence française. C'est aussi pour ça, moi, que j'ai été lecteur de Combat, parce que j'étais fier, j'appartenais à l'intelligence française, on n'était pas très nombreux. Il désarçonnait le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer.
C'est
lendemain.
Le pluralisme intérieur qui faisait ça.
Oui. Et donc, vous l'avez dit très bien, une certaine incohérence ressentie par les lecteurs. En même temps, on ne peut pas recommander ça aux médias d'aujourd'hui, puisque ça mène à la fin et ça provoque beaucoup de difficultés. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce pluralisme, ces oppositions constantes. On peut se faire un point de vue.
Que reste-t-il, à votre avis, aujourd'hui, de l'esprit combat, sinon rien ?
Il y a toujours des chevaux légers, enfin des gens qui font bande à part. Il reste l'esprit réfractaire et le goût pour l'esprit réfractaire. Moi, je ne faisais pas le rapport de Combat avec Camus dans ma jeunesse. Je ne le lisais pas beaucoup, Camus. Mais c'était ça. L'esprit de Camus, c'est le goût pour ceux qui sont un peu de côté. Qui sont modestes, qui sont invisibles et qui ne cherchent pas de rente. Et Pascal Pia était exactement du même genre. Pascal Pia a refusé d'avoir une retraite.
Non.
Plutôt crever que de remplir des papiers. Et il est mort dans la misère, mais noblement.
Bien, je vois que vous vouliez lui rendre hommage. On a commencé avec lui, on finit avec lui. La boucle est bouclée. Merci infiniment, Jean Lebrun. À bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le journal Combat. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Thomas Allard.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.